Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement, qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, c'est-à-dire non pollué et empreint de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast, dans lequel je vais vous lire un article intitulé « Ce que nos ancêtres peuvent nous apprendre en santé environnement ». C'est un article que j'ai publié en deux parties, je vais vous lire ces deux parties à la suite. On commence par une citation de Théodosius Dobzhansky. En biologie, rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Fin de citation. La plupart d'entre vous, j'imagine, a entendu parler de la loi de l'évolution. Cette loi a été popularisée par Charles Darwin au milieu du XIXe siècle et peut se résumer à peu près ainsi. Des mutations aléatoires apparaissent régulièrement au sein de nos gènes. Ces mutations peuvent se traduire par de nouvelles caractéristiques corporelles, par exemple des ongles se transformant en griffes, une meilleure vue dans le noir, une augmentation de la production de certains enzymes digestifs, un plus grand nombre de globules rouges dans le sang, une couleur de peau différente, de nouvelles formes de dents, etc. Si une de ces nouvelles caractéristiques fournit un avantage pour la survie et la reproduction, alors elle va progressivement se répandre parmi les individus pour finalement devenir une caractéristique de l'espèce entière. En particulier, puisque des individus en bonne santé ont plus de chances de survivre aux épreuves de la vie, et donc d'avoir des enfants, l'évolution a tendance à sélectionner les caractéristiques qui contribuent à un corps performant, en bonne santé. Sur la base de ce mécanisme, notre corps s'est progressivement adapté à notre environnement, pendant des millions d'années, par touches successives. En d'autres termes, notre environnement a, en quelque sorte, sélectionné nos gènes et donc, petit à petit, façonné notre corps. La plupart des gens connaissent ces éléments, ou au moins, elle connaît le principe d'un corps qui se modifie progressivement, devenant de mieux en mieux adapté à son environnement. Ce qui est moins connu, c'est que cette vitesse d'adaptation est très lente. La quantification de cette vitesse varie selon les auteurs, mais concernant l'espèce humaine, on peut retenir que nos gènes et notre physiologie de base ont peu évolué depuis plusieurs centaines de milliers d'années, et dans une moindre mesure, depuis plusieurs millions d'années. Ce n'est pas vraiment l'apparition de nouvelles mutations qui est lente, surtout avec une population mondiale d'environ 7 milliards de personnes aujourd'hui. Mais lorsqu'une mutation bénéfique apparaît, il lui faut plusieurs centaines de milliers d'années pour se répandre dans l'ensemble de la population. En un sens, du point de vue de l'espèce humaine, cette lente évolution est bénéfique, car elle assure une certaine stabilité. D'un autre côté, elle implique une adaptation lente de notre corps face à de potentielles nouvelles contraintes. Et de fait, nos gènes et notre physiologie de base sont similaires à ceux de nos ancêtres du Paléolithique supérieur, qui s'étend entre moins 35 000 et moins 10 000 ans. À cette époque, les êtres humains étaient des nomades chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils vivaient des produits qu'ils prélevaient directement dans la nature. Aujourd'hui, notre mode de vie et notre environnement sont bien différents, vous l'avez probablement remarqué. Et plus précisément, deux changements majeurs ont eu lieu depuis la période paléolithique. Tout d'abord, l'apparition de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, qui a fortement modifié notre alimentation, mais également notre mode de vie. Sédentarisation, regroupement d'individus dans des villes, structures sociales plus hiérarchisées, etc. La révolution industrielle aussi, au cours du XIXe siècle, qui a conduit à l'alimentation industrielle, à l'exposition régulière à des substances chimiques et au mode de vie moderne. Notre mode de vie et notre environnement ont donc fortement changé, en l'espace respectivement de quelques milliers et quelques centaines d'années. Ces durées ne représentent qu'un clignement d'œil, donc c'est une expression couramment utilisée, donc ce clignement d'œil à l'échelle de l'évolution. Pour en donner une illustration concrète, considérons les 7 à 8 millions d'années qui nous séparent de notre dernier ancêtre commun avec les primates non humains, et rapportons-les à l'échelle d'une année. Dans ce cadre, l'agriculture apparaît dans l'après-midi du 31 décembre, et la révolution industrielle a lieu le 31 décembre vers 23h50. Ou encore, rapporté à l'échelle d'une journée, l'agriculture apparaît vers 23h58 et la révolution industrielle a lieu vers 23h59 et 59 secondes. Voilà pour vous donner quelques point de repère un peu plus parlant. Ces illustrations seraient encore plus caricaturales si le point de départ retenu était l'apparition des premiers primates, il y a environ 60 millions d'années. Notre vie et notre environnement sont donc devenus soudainement, à l'échelle de l'évolution, très différents de ceux auxquels notre corps s'est progressivement adapté pendant des millions d'années. Alors qu'en parallèle, notre corps, lui, n'a quasiment pas évolué. À peu de choses près, il est resté celui d'un chasseur-cueilleur du paléolithique. Ce contraste est appelé discordance évolutionniste. Quel que soit l'être vivant que l'on considère, plus son corps est adapté à son environnement, meilleure est sa santé. L'étude des squelettes retrouvés dans des fouilles archéologiques, d'une part, et l'observation des populations de chasseurs-cueilleurs actuels, d'autre part, suggèrent que nos ancêtres du paléolithique étaient en très bonne santé. À titre d'illustration, parmi les populations de chasseurs-cueilleurs actuels, comme les Hadza en Tanzanie, les Kitavan en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Haké du Paraguay, les Kung du désert du Kalahari au Botswana, etc., on ne trouve quasiment aucun cas de cancer, diabète, hypertension, fractus, aucune maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Mais également, quasiment aucun problème de santé plus bénin, comme l'acné, les caries, l'ostéoporose, etc. D'une manière générale, et cela peut être contre-intuitif au premier abord, ces populations présentent un corps en pleine santé. Mais le principe inverse est également vrai, c'est-à-dire qu'un moins un corps est adapté à son environnement, moins sa santé est bonne. En fonction de l'ampleur de la discordance, des effets sanitaires peuvent se manifester de manière plus ou moins intense et plus ou moins vite. Par exemple, un manque d'oxygène tue en quelques minutes, un manque d'apport alimentaire en vitamine C produit un scorbut en quelques mois, un manque d'apport alimentaire en calcium produit une ostéoporose clinique en plusieurs dizaines d'années, etc. Dans ce contexte, la discordance évolutionniste est une hypothèse proposée par plusieurs auteurs pour expliquer la forte augmentation de l'incidence des maladies de civilisation. Cancer, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, obésité, maladies neurodégénératives, myopie, etc. La médecine dite évolutionniste fait des propositions pour réduire la discordance évolutionniste, et c'est ce que j'aborde dans la deuxième partie de l'article. Vous pouvez trouver en bas de ce premier article des références. Voilà, il y en a 9, je vais les mettre également dans les notes du podcast. La deuxième partie de l'article commence par la fameuse citation que l'on trouvait au fronton du temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même. La médecine dite évolutionniste fait des propositions pour réduire la discordance évolutionniste. Cette médecine se base sur un principe simple. Les organismes biologiques sont en bonne santé quand leurs conditions de vie sont proches des conditions dans lesquelles leurs gènes ont été sélectionnés. Ce principe s'applique notamment au corps humain, qui est un organisme biologique particulier. C'est pourquoi cette médecine nous invite, dans notre monde moderne, à nous réapproprier les composantes du mode de vie de nos ancêtres. Notre corps en a besoin pour fonctionner de manière optimale, pour être en bonne santé. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, la médecine évolutionniste ne nous demande pas de, entre guillemets, revenir à l'âge de pierre. Elle fait plutôt la supposition suivante, mimer dans notre monde moderne les principales composantes du mode de vie ancestral, par exemple le régime alimentaire, l'activité physique, la présence dans la nature, etc., permettrait de réduire la discordance évolutionniste et devrait donc augmenter le niveau global de santé. Par exemple, cela pourrait se traduire par privilégier la consommation d'aliments peu transformés. Un sujet, personnellement j'adore la formule de Michael Pollan, qui dit en substance, ne mangez rien que votre arrière-grand-mère ne reconnaîtrait pas comme un aliment, comme par exemple les produits avec 15 ingrédients que vous n'arrivez même pas à prononcer. Donc, première composante, donc privilégier la consommation d'aliments peu transformés. On peut donner aussi d'autres exemples. Manger une grande variété d'aliments, manger des fruits et légumes de saison, assez rapidement après leur cueillette. Rapprocher son rythme éveil-sommeil du rythme jour-nuit. Pratiquer tous les jours une activité physique de faible intensité, par exemple la marche. Diminuer son exposition aux produits chimiques, donc ce qui est l'objet de ce blog. Passer du temps à l'extérieur, dans la nature, au sein d'un environnement arboré, si possible comprenant des autres surfaces, c'est la deuxième grande thématique de ce blog. S'exposer intelligemment au soleil, entretenir des relations de qualité avec un groupe de taille limitée, ne pas vouloir à tout prix aseptiser sa maison, etc. En particulier, il ne s'agit pas de reproduire à l'identique le mode de vie ancestral, ce qui serait impossible dans le monde moderne, mais uniquement d'en mimer les principales composantes. Le mode de vie de nos ancêtres du paléolithique est un sujet d'étude. Certaines composantes restent aujourd'hui incertaines. Puisque notre savoir est limité, la logique évolutionniste ne fournit pas de vérité incontestable. Elle permet néanmoins de proposer certaines hypothèses de travail, dont la validité doit être testée par des études scientifiques modernes, des études épidémiologiques, des études cliniques, des études en laboratoire. Et c'est dans ce cadre que se situent et que se situeront les analyses qui seront présentées sur ce blog, à l'intersection entre les preuves scientifiques et les indices laissés par nos ancêtres. Au-delà du positionnement du blog, je souhaitais clarifier avec cet article comment la logique évolutionniste peut apporter une valeur concrète dans la vie quotidienne de nos enfants. De futurs articles détailleront les composantes du monde de vie ancestral dont les effets sont, à mon sens, appuyés par des études scientifiques de qualité. Mais d'une manière générale, je crois qu'il est toujours intéressant, lorsque nous avons à faire un choix concernant nos enfants, de nous poser la question « Comment faisaient nos ancêtres en particulier du paléolithique ?» S'il est parfois difficile de savoir ce qu'ils faisaient, il est souvent très simple de savoir ce qu'ils ne faisaient pas. Par exemple, rester enfermé à la maison toute la journée devant la télévision en mangeant de la glace aux cookies. Le mode de vie ancestral peut servir de guide des générales, de point de référence, en particulier pour les thématiques où les études scientifiques sont absentes ou encore peu nombreuses. Voilà, c'est la fin de cet article, donc qui était rédigé en deux parties. Cette deuxième partie comprend également des références que je mettrai dans les notes du podcast. Vous trouvez également sur le blog d'autres articles en lien avec ce que j'appelle l'approche ancestrale. Vous pouvez cliquer dans la barre latérale, il y a une boîte avec les différents sujets, et il y a un sujet qui s'appelle mode de vie ancestral, et en cliquant dessus vous aurez tous les articles qui sont liés à cette thématique, notamment les principes que je viens de présenter génèrent souvent un certain nombre de questions, et donc j'ai consacré certains articles à donner des éléments de réponse à ces questions que je me suis moi-même posées dans un premier temps. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Comme promis lors du premier podcast, j'essaie de prendre l'habitude de me compléter par un retour d'expérience en lien avec ce contenu, et peut-être que pour faire simple, je peux reprendre dans l'énumération des différentes composantes le premier élément qui est privilégier la consommation d'aliments peu transformés. Donc ça, c'est vraiment dans les deux dernières années un des changements majeurs que j'ai effectué dans ma vie et dans celle de ma famille, et en particulier pour mes enfants, c'est de leur donner à manger des aliments, donc des aliments entiers, c'est-à-dire peu transformés, peu raffinés, pas de plats préparés, essayer d'acheter des légumes complets, enfin le légume de base que l'on trouve au marché ou au supermarché, au rayon fruits et légumes. Et dans ma préparation, de le transformer le moins possible. Donc, notamment, de le cuire le moins possible, avec des températures douces, ou de le prendre cru. Eh bien, voilà, ça va être la fin de ce deuxième podcast. Pour lire ou écouter d'autres articles, je vous renvoie donc à ce sujet approche ancestrale sur le blog que vous pouvez trouver en tapant santé enfant environnement sur Google, ce sera le premier lien. Voilà, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamoys pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos enfants.